Le journal de 8h avec Sarah Guibaudou. Bonjour Sarah.
Bonjour. Gouverner, c'est d'abord faire son budget. Pour 2008, il s'annonce serré, 10 milliards d'économies à trouver. Et en attendant, nouveau coup de rabot sur les crédits de 2017, 300 millions d'euros repris aux collectivités locales. Les élus sont en colère, nous l'entendrons. L'équation budgétaire d'Emmanuel Macron, on attend la solution à 8h20 avec votre invité, Pierre.
Oui, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, les coups de rabot, la nouvelle fiscalité. Des questions pour le ministre et bien sûr vos questions dans Interactive 01 45 24 7000. Ce sera à partir de 9h-20, mais le standard est ouvert déjà.
Cette fois, il arrive à Paris, Neymar, aujourd'hui. En tout cas, le transfert du siècle est signé. Neymar, c'est plus qu'un footballeur, une machine à cash et un instrument diplomatique pour le Qatar. Au Venezuela, l'Assemblée constituante ne se réunira que demain, mais une enquête est ouverte sur une possible fraude électorale. Dans ce journal, coup de projecteur sur la voie maritime qui s'ouvre à travers la banquise. Retour sur le bizutage il y a 5 ans dans l'équipe de gymnastique des pompiers de Paris. 10 participants sont renvoyés encore des drones au-dessus des plages et des athlètes russes en maillot neutre demain aux Mondiaux de Londres.
France Inter.
Emmanuel Macron veut tenir les engagements européens de la France et ramener le déficit sous la barre des 3%. Le président de la République a aussi redit hier à ses ministres qu'il devait se projeter sur 5 ans, que les réformes en profondeur étaient essentielles. On verra. Mais en attendant, le gouvernement revient à la bonne vieille méthode du coup de rabot. Après les crédits des armées ou les allocations logements, ce sont les collectivités locales qui sont touchées. 300 millions d'euros de dotations annulées pour cette année. Les élus sont très montée comme ceux du département de l'Indre qu'a joint Jonathan Landais.
Michel Blondeau, le maire de Déol et président de l'association des maires de l'Indre, veut par exemple construire une nouvelle halte garderie sur sa commune.
Nous voulons augmenter le nombre de places, une vingtaine de places alors que nous en avons 12. Donc nous construisons une nouvelle halte garderie toute neuve.
Pour ces travaux, il assure déjà avoir obtenu les financements.
Les subventions sont bouclées, donc ça ne m'inquiète pas pour moi. Mais s'il y a des projets qui sont déposés à la préfecture aujourd'hui et qui n'ont pas encore été fixés dans le marbre, il y a des projets qui peuvent être concernés.
Cet argent versé dans le cadre des contrats de ruralité ou de la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, sert aussi à financer des travaux d'économie d'énergie ou divers équipements comme des pistes cyclables. Vanik Berberian, le maire de Gargilès et président de l'association des maires ruraux, s'inquiète des conséquences économiques.
Tous ces travaux qui ne se feront pas, ce sont autant de carnets de commandes des entreprises qui ne feront pas rendez-vous.
Il dénonce aussi la méthode et le flou entourant ces annonces.
Quand on vous dit le lundi, désormais, rien ne se fera sans discussion avec les collectivités et que quelques jours après, vous apprenez de manière accidentelle cette décision, il y a quand même une grande différence entre les propos tenus et les actes.
Quels seront les chantiers qui en pâtiront cette année ou en 2018? Pour l'instant, pas de réponse. Vanik Berberian compte écrire au préfet dans les prochains jours pour demander des précisions.
Beaucoup de mécontents donc pour 2017 et l'année prochaine. Les ministères attendent leurs lettres de plafond, leurs enveloppes pour 2018. Il faut trouver 10 milliards d'euros d'économies, sans compter qu'Emmanuel Macron avait promis des baisses d'impôts. L'intérieur, la justice et l'éducation devraient être préservés, mais seul le budget des armées doit augmenter. Et encore, pour le député LR François Cornu-Gentil, ce sera une hausse en trompe-l'œil après les coupes de cet été. Bref, il estime, lui, que c'est une politique à courte vue.
L'effort était prévu, il était demandé par les armées. Donc ça, on pense que les lettres de plafond vont le confirmer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Elle est quand même bien compromise par les pertes de crédit qui ont affecté les dernières semaines et notamment 850 millions qui vont manquer sur les crédits d'équipement. Et donc, vous voyez ce paradoxe. On redonne l'année prochaine, en quelque sorte, ce que l'on a pris cette année. Sur le budget de la défense, on ne raisonne pas tellement par année. On a des équipements à acheter sur 10 ou 15 ans. Et donc, si vous prenez 1 milliard de retard sur les équipements, ce qu'on est en train de faire cette année, même si vous rajoutez un peu l'année prochaine, vous faites que repousser les échéances. Déjà, les équipements ont du retard et ils vont avoir encore plus de retard en dépit de ce 1,8 milliard annoncé.
Propos recueillis par Boris Théier. Le Parlement donne son feu vert au gouvernement pour légiférer par ordonnance sur la réforme du Code du travail. Le projet de loi a été voté hier au Sénat. Députés et sénateurs doivent encore s'entendre sur le projet de moralisation de la vie publique, faute d'accord sur la suppression de la réserve parlementaire. La session extraordinaire du Parlement est prolongée jusqu'au 9 août. Le Qatar, lui, dépense sans compter. Il va payer 222 millions d'euros au FC Barcelone pour faire venir le Brésilien Neymar au Paris Saint-Germain. Saint-Germain, nouveau record dans l'histoire des transferts du football. On verra ce qu'en dit l'UEFA au niveau du fair play financier. Mais Neymar, dit-on, est le joueur le plus rentable et on ne parle pas que de buts sur le terrain ou pas que. C'est aussi une star planétaire destinée à séduire les parieurs jusqu'en Asie et pour le Qatar aussi une arme diplomatique alors qu'il est englué depuis le mois de juin dans la crise avec ses voisins du Golfe, Christian Cheneau.
Neymar au PSG, c'est le symbole du soft power du Qatar, un pouvoir d'influence qui se paie en centaines de millions d'euros. En pleine crise diplomatique avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, Doha envoie un double message. D'abord, pour dire à ses voisins qu'ils n'ont pas réussi à lui briser les reins financièrement et ce, malgré le blocus aérien et terrestre en vigueur depuis le 5 juin dernier. Notre économie est solide, répètent les responsables qatariens. Ensuite, c'est un message subliminal destiné celui-là aux pays occidentaux que l'on pourrait résumer ainsi. Comment le Qatar, qui se paie l'un des plus célèbres joueurs de football de la planète, pourrait-il en même temps financer le terrorisme international comme le prétendent l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis? Pour Doha, acheter Neymar, c'est un fabuleux coup de communication, le transfert du siècle qui permet à l'Émirat de faire diversion dans la crise diplomatique avec ses voisins du Golfe et d'attirer sur lui l'attention du monde entier. Entouré d'ennemis qui veulent sa peau, l'émir Tamim n'a pas hésité une seconde à signer un gros chèque, une broutille pour lui.
Malgré sa réticence, Donald Trump a promulgué hier les nouvelles sanctions économiques décidées par le Congrès américain contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Alors que la Russie n'exclut pas de nouvelles mesures de rétorsion, l'Iran a estimé cette nuit que l'accord nucléaire de 2015 était violé et qu'il allait réagir sans précision à ce stade. Au Venezuela, la procureure générale Luisa Ortega ouvre une enquête sur les soupçons de fraude qui pèsent sur le scrutin de dimanche. C'est la suite des accusations lancé hier par l'entreprise britannique chargée des opérations de vote, Smartmatic, et qui ont fait réagir le président Maduro, Sandrine Etoa-Andegue.
Nicolas Maduro avait convoqué la presse à 15h. Il est finalement monté sur scène à 19h30, chemise rouge décontractée et cerne sous les yeux. Les 545 membres de l'Assemblée constituante étaient censés prêter serment. Au lieu de ça, ils l'ont écouté pendant une heure faire des blagues et régler ses comptes à coups d'insultes, contre Antonio Mujica.
Le stupide président de Smartmatic, poussé par les Anglais et les Américains, a dit que le nombre total de votes était de 7,5 millions. Moi, je pense qu'il y a plus de 10 millions de Vénézuéliens qui se sont déplacés. Mais il n'y en a que 8 millions qui ont pu voter à cause des barres de fer et des barrages des manifestants.
Et contre son opposant politique, Enrique Capriles.
La misma maquinita.
On parle des mêmes machines de vote qui ont élu cette grande folle de Capriles, maire de Baruta, deux fois. Les mêmes qui l'ont élu gouverneur de Miranda.
Et rappelle l'utilité de la constituante.
Pour dérouter l'agression des impérialistes qui complotent contre le Venezuela. C'est une attaque économique, politique et militaire qui se prépare, dirigée par le gouvernement de Donald Trump et plusieurs gouvernements d'extrême droite contre la souveraineté du Venezuela et sa tranquillité.
Le message est clair, au Venezuela, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui le patron. Caracas, Marc Garvenès, Sandrine Etoa-Andegue, France Inter.
Et la première séance de l'Assemblée constituante est à nouveau reportée à demain. La Turquie arrête à nouveau un journaliste français, Lou Bureau, indépendant, rentré d'un reportage avec des combattants kurdes à la frontière irakienne. Il a été incarcéré, soupçonné d'assistance à une organisation terroriste.
Il est 8h09, le journal Sarah Guibaudeau. On parlait hier, Sarah, dans cette matinale d'écologie du réchauffement climatique avec Nicolas Hulot.
Et voyons maintenant comment la fonte de la banquise fait le bonheur ou les affaires de certains. Une nouvelle voie maritime s'ouvre dans l'Arctique qui peut diviser par deux le temps de trajet entre l'Europe et l'Asie. Le pétrolier Total a investi dans 15 méthaniers à coque brise-glace. Un de ses navires est parti livrer du gaz à la Corée du Sud. Il navigue en ce moment tout seul sur cette voie maritime du Nord, mais peut-être pas pour longtemps, Delphine Evenou.
En 60 ans, la banquise a perdu plus de la moitié de sa surface à la fin de l'été. Voilà qui rallonge la fenêtre pour pratiquer les eaux glacées de l'Arctique en allant de l'extrême nord russe à l'Asie via le détroit de Bering. Par cette route, le trajet diminue de 40% et rapproche des ressources jusque-là trop lointaines. C'est le cas du gaz naturel de Yamal, où Total a investi 23 milliards d'euros pour approvisionner le marché asiatique. 15 jours de bateau au lieu d'un mois, ce qui n'était pas rentable, le devient, explique le chercheur en économie maritime Olivier Faury, même si la route du Nord ne deviendra pas, selon lui, une autoroute.
Le réchauffement climatique en Arctique va permettre l'exploitation de ces ressources, l'exportation l'extraction par la mer de ces ressources de manière peut-être plus facile que ça a été jusqu'à présent, mais plus facile jusqu'à présent de ne pas dire très simple, c'est-à-dire beaucoup plus compliqué que dans d'autres zones du globe. Les conditions climatiques sont extrêmement fluctuantes. D'une année sur l'autre, vous pouvez passer à certains endroits et l'année suivante, vous ne pouvez pas. Et ça n'a l'air quand même qu'à un impact relativement important au niveau économique et donc une société lambda n'ira pas forcément.
Difficile de faire des prévisions de trafic à moyen terme, mais il faudra beaucoup de temps pour atteindre les 18 000 navires qui transitent chaque année par le canal de Suez. En revanche, les routes arctiques vont favoriser sans aucun doute l'exploitation de ressources énergétiques jusque-là préservées.
On pourra aussi un jour corriger les défauts d'un bébé à naître en coupant dans son ADN. Une première étude concluante a été publiée hier dans la revue de référence Nature. Des scientifiques de l'université de l'Oregon aux États-Unis ont corrigé des embryons porteurs d'une maladie cardiaque héréditaire grâce aux ciseaux moléculaires, la technique CRISPR-Cas9. L'expérience in vitro n'a duré que quelques jours car au-delà de la technique, il faudra trancher le débat éthique et poser des limites aux possibles modifications génétiques. Il y a 5 ans, l'affaire avait entraîné la dissolution de la prestigieuse équipe de gymnastique des pompiers de Paris. Elle devrait connaître dans les prochains mois son épilogue judiciaire. 10 pompiers vont être jugés en correctionnel pour agression sexuelle et violence volontaire sur 2 des leurs. Cette séance, qualifiée pour les uns de bizutage, s'était déroulée au retour d'une représentation Charlotte Piret.
Les pompiers de l'équipe de gym appellent ça le Bronx. Comprenez les places arrière du bus chargé de les emmener aux différentes compétitions. Ce jour-là, ils rentrent justement de Colmar et 2 nouveaux arrivés sont soumis au bizutage. Ils sont déshabillés, reçoivent des claques, des morsures sur les fesses. La tradition, expliquent les gymnastes aux enquêteurs. Mais ce jour-là, c'était plus violent que d'habitude. Certains y allaient fort, raconte l'un d'eux. L'une des victimes est en larmes, reste prostrée au sol. Mais l'autre en a d'abord redemandé. Après une première série d'humiliations, le jeune gymnaste nargue les anciens, estime le traitement léger et retourne au fond du bus. Cette fois, les sévices sont plus douloureux, plus sexuels. Le tout filmé par l'un des membres de l'équipe à la demande du bizu. Pour garder un souvenir, explique-t-il. D'autres le soupçonnent d'avoir prémédité une vengeance alors qu'il devait être écarté de l'équipe. Le jeune homme aurait ainsi évoqué cette idée d'un chantage avec une vidéo de bizutage. Peut-être, mais pour les juges, cela ne suffit pas à démontrer la fausseté des faits dénoncés. 10 sapeurs-pompiers devront donc en répondre devant un tribunal correctionnel.
La police nationale a un nouveau patron, le préfet Éric Morvan, 60 ans, qui était en poste dans les Pyrénées-Atlantiques après avoir été numéro 2 du cabinet de l'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Il remplace Jean-Marc Falcon, nommé préfet de la région Centre-Val-de-Loire. Pour le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, Éric Morvan devra notamment mettre en place une police de sécurité du quotidien. C'est sans doute une de nos marottes, voire même aujourd'hui ce qu'on appelle chez les journalistes un marronnier. L'usage des drones se développe dans de nombreux secteurs. Le bourdonnement de ses ailes pourrait même vous surprendre en pleine baignade à Biscarrosse ou à Lacanau en Gironde. Le reportage de Florence Péruzin.
Et on le remarque tout de suite, ce nouveau drone. D'abord par son bruit caractéristique, mais surtout par sa couleur, rose fluo, pour être facilement repérable par les sauveteurs. Titouan fait partie des 3 MNS formés pour le piloter. Et jusque-là, il n'avait jamais tenu de manette.
Non, pas avant, mais c'est quand même très facile. On a été bien formés, et puis dans tous les cas, le drone est prévu si jamais il y a un moindre souci. Automatiquement, s'ils voient un obstacle, il va l'éviter. Les gens peuvent aller sur la plage tranquillement, même s'il y a le drone, il n'y a vraiment aucun danger. Quoi.
Pas de danger pour les touristes. Au contraire même, ce petit robot bourré de technologie peut leur sauver la vie, car il va permettre aux sauveteurs d'être plus rapidement au contact des victimes. Anthony Gavan est le cofondateur de la société Helper Drone.
Ça permet d'arriver beaucoup, beaucoup plus tôt. Ça coûte rien. Et en plus, on n'engage pas de sauveteurs. Ça veut dire qu'on peut arriver bien avant que les victimes se noient. On n'est pas obligé d'attendre qu'une victime soit en réelle difficulté pour vérifier qu'elle va l'être. On a un retour vidéo de définition en fait, sur la tablette, ce qui nous permet d'avoir vraiment l'expression même du visage de la victime. C'est assez impressionnant. On peut descendre à quelques mètres de la victime. Et là, on peut faire le choix, le sauveteur fait le choix, parce que c'est le sauveteur qui pilote, de larguer ou non une petite bouée qui va se gonfler au contact de l'eau.
Pour l'instant, ce drone est gracieusement prêté à la commune, avec l'espoir que l'année prochaine, elle se décide à débourser autour de 20 000 euros. Florence Péruzin, France Bleu Gironde pour France Inter.
J-1 avant le coup d'envoi des championnats du monde d'athlétisme à Londres. Dans le stade, il n'y aura pas de drapeau de la Fédération de Russie, suspendu après les révélations de 2015 sur le dopage d'État. Mais des athlètes pourront quand même concourir sans leur couleur nationale. Les explications de Vincent Pellegrini.
L'an dernier, dans les semaines qui avaient précédé, les JO de Rio, le sport russe était en pleine tourmente. Le rapport McLaren démontrait de façon accablante un véritable dopage d'État concernant des dizaines de disciplines. Certaines fédérations avaient pourtant laissé des sportifs russes participer aux Jeux. La Fédération internationale d'athlétisme, quant à elle, s'était montrée intransigeante. Celle-ci considère aujourd'hui que les progrès de la Fédération russe en matière de lutte antidopage sont insuffisants pour la réintégrer dans le giron international. Mais les dirigeants de l'athlétisme mondial se sont montrés un peu plus souples qu'il y a un an. 19 athlètes russes ont été autorisés à participer à ces mondiaux de Londres sous bannière neutre. Ces derniers ont présenté des passeports biologiques normaux et leur nom n'apparaissait pas dans le rapport McLaren. Parmi eux, deux athlètes qui défendront leur titre mondial décroché il y a 2 ans, le spécialiste du 110 mètres haies, Sergei Choubenkov, et la sauteuse en hauteur, Maria Lasitskene. Londres, Vincent Pellegrini, France Inter.
En rouge et blanc pour les fêtes de Bayonne, mais d'abord faites la queue au péage. C'est une information de France Bleu Pays Basque. Alors que les fêtes ont fait venir la semaine dernière plus d'un million de personnes, un record, la mairie de Bayonne relance l'idée de les rendre payantes l'année prochaine.
C'était le journal de Sarah Guibaudot.